France Culture.
Méthode vise à assassiner systématiquement des membres des forces de l'ordre. Des détails avec notre correspondante en Colombie, Najat Benrabah.
Dans la plupart des cas, les tueurs à gages se présentent devant leurs victimes en moto et avec une arme à feu. Puis, ils leur tirent dessus à plusieurs reprises et prennent la fuite. Cette méthode est nommée par le gouvernement El Plan Pistola, le plan pistolet. Il vise les policiers et les soldats en représailles aux opérations militaires menées par l'État contre les groupes de narcotrafiquants comme El Clan del Golfo, mais aussi contre ceux des dissidents FARC ou des membres de la guérilla ELN, l'Armée de Libération Nationale. Le directeur de la police nationale, Carlos Triana, annonce la riposte des autorités. Il apparaît régulièrement dans tous les médias colombiens pour faire le point sur la situation.
Six départements sont concernés par ces assassinats, mais aujourd'hui nous pouvons annoncer au pays que nous avons réussi à capturer 83 personnes appartenant à ce groupe criminel des clans del Golfo, responsable de ces actes. Et nous avons des chefs de ce groupe. Nous avons aussi retrouvé un des tueurs qui a assassiné un membre de la police nationale, c'est-à-dire que nous avons arrêté le dit El Canoso dans la ville de Chugorodo, le tueur à gages qui a tué un de nos policiers.
Fait exceptionnel et qui montre la gravité de la situation, le directeur de la police nationale a aussi autorisé les policiers à garder leurs armes de service chez eux durant leurs jours de repos pour pouvoir se défendre en cas d'attaque. Dernièrement, El Clan del Golfo, le groupe de narcotrafiquants le plus important du pays, a annoncé un plan pistola contre le pouvoir judiciaire, menaçant de mort des magistrats.
Précision signée Najat Benrabah. La météo cet après-midi avec la dégradation orageuse qui se poursuit. Les averses se renforcent donc de la Bretagne au Grand Est. Des orages également attendus des Pyrénées jusqu'au Massif central avant de s'étendre vers la région Rhône-Alpes. Les éclaircies continueront cependant de dominer. Au sud de la Loire, comptez 17 à 22 degrés des côtes de la Manche aux frontières du Nord. 23 à 27 degrés partout ailleurs. C'est la fin de ce journal préparé avec M. Le Chili, Jean-Guy Lamège à la technique.
Vous êtes bien sur France Culture.
Cette semaine, la série musicale vous emmène à la découverte du son du Sénégal.
Zoé Svez.
Après notre série consacrée au Cap-Vert et notre portrait du secret le mieux gardé de la pop italienne, Franco Battiato, nous partons ce samedi à la rencontre du genre roi au Sénégal. Le mbalax popularisé par l'immense Youssou N'Dour qui fait son grand retour ce printemps.
La série musicale. Chaque samedi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Washington et Kiev signent enfin un accord sur l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes.
Hervé Gardette.
Donald Trump, qui avait Volodymyr Zelensky dans le viseur, semble désormais plus conciliant à son égard et plus méfiant envers Vladimir Poutine. Une inflexion durable. 100 jours après son arrivée à la Maison-Blanche, Trump deviendrait-il un peu moins déraisonnable? Nous en débattrons ce dimanche avec Sylvie Kaufmann, Jean-François Colosimo, Didier Lesky et Magali Lafourcade.
L'Esprit public, ce dimanche à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Midi 46, à l'écoute de France Culture, place à Sens Politique avec Astrid De Villene. Bonjour Astrid.
Bonjour Julie, merci pour le journal. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sens Politique, l'émission qui prend le temps de connaître un invité pour décrypter avec lui son parcours, son engagement et sa personnalité au rythme de l'actualité. Notre invité est d'un naturel discret. Ingénieur, diplômé de l'école des mines en 2006 et du MIT aux États-Unis, il commence sa carrière en stage chez Total et Areva, le groupe Carrefour, avant de rejoindre le public, la DRIEE sur la prévention des risques et le cabinet de Ségolène Royal à l'environnement sous François Hollande, où il côtoie celle qui deviendra première ministre à un moment clé de sa carrière, Elisabeth Borne. Après l'élection d'Emmanuel Macron, il est son conseiller à l'Élysée sur les sujets d'environnement, d'énergie et de transport quand éclate la crise des Gilets jaunes. Deuxième quinquennat, le président sortant annonce un mandat qui sera écologique ou ne sera pas. À 41 ans, il vient de quitter un poste créé presque sur mesure afin de tenir cette promesse d'Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours de 2022. Son surnom, Mondrian.
en raison des blocs de couleurs qui organisent sa réflexion. Il assure qu'il n'y a plus qu'à appuyer sur les boutons pour faire marcher la transition. Ses détracteurs l'appellent Monsieur Mise en Page. Ses supporters affirment qu'il a beaucoup fait pour les politiques climatiques et qu'il y aura un avant et un après. Pourquoi a-t-il démissionné? Qu'attend-il de son successeur au poste de secrétaire général à la planification écologique qu'il a occupé en premier jusqu'à février dernier? Il nous répondra. Bonjour Antoine Pellion.
Bonjour Astrid.
Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous de nous suivre comme chaque samedi. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30. Alors ça y est, on a trouvé le responsable. La crise des gilets jaunes, c'était vous, Antoine Pellion?
Alors bien sûr, pas du tout. Je pense que c'est un moment très important, effectivement, qui a beaucoup marqué tout le pays. Et je pense qu'il nourrit aussi une façon dont les Français voient le sujet de la transition écologique aujourd'hui. Et je pense que c'est important de dépasser ce moment-là pour se dire maintenant comment on fait pour agir vraiment, comment on fait pour y arriver et comment on fait en fait en sorte pour que prendre conscience que l'écologie, c'est pas un problème mais c'est une chance et une nécessité en réalité. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir.
Mais qui a l'idée de cette taxe carbone? Puisque je rappelle que de 2017 à 2019, vous êtes le conseiller environnement, énergie et transport à l'Élysée.
Alors, cette taxe carbone, elle existe bien avant Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Donc, elle existe. Elle a d'ailleurs été votée avant même Ségolène Royal. Il y avait une évolution qui avait été volée sous Ségolène Royal. Et Emmanuel Macron, dans son programme de campagne, dit qu'il va continuer cette trajectoire d'augmentation progressive. Et je pense que ça nous ramène vers un sujet de savoir qui doit faire les efforts, à quel moment, comment, quelle est la notion de justice et d'équité dans cette transition-là.
Vous lui devez la taxe carbone, remerciez-le tous. Grâce à Antoine, j'ai pu me déplacer partout dans tous les territoires. Vous vous souvenez de cette phrase?
Ça absolument. Vous fait rire. Ça, c'est mon pot de départ, effectivement, de l'Élysée avec Emmanuel Macron. Donc, il y a toujours une pointe d'humour, forcément, dans cette prise de parole-là. Ça traduit le fait aussi que ce sujet de la transition, c'est un sujet qui est profondément local et territorial. Et donc, c'est aussi une façon qu'a eu le président de la République de renouer après cette crise en allant sur le terrain. Et c'est ça aussi qu'il faut faire avec cette transition écologique, c'est aller sur le terrain concrètement.
Et cette question de Yacine qui nous a écrit sur Instagram, comment 50 ans de consensus scientifique a fini en taxe carbone et donc en permis à polluer?
Alors, je pense que c'est vraiment important de pas tout résumer absolument au sujet de la taxe carbone. Taxe carbone, d'ailleurs, je rappelle que la hausse qui était prévue en 2018, c'était 3 centimes d'euros. Et cette hausse-là, par la suite, notamment avec la crise suite à la guerre en Ukraine, on vient encore d'en parler dans le journal juste avant, ça a provoqué une explosion bien supérieure des prix des hydrocarbures. Donc en fait, ce sujet de la taxe carbone, ça a été aussi un problème social plus profond dans le pays, et c'était pas uniquement une question des carburants. Ça renvoie vers les outils en fait de qui fait quoi, à quel moment sur la transition. Un des gros enseignements de la planification écologique, c'est que l'effort, il doit être réparti. Il y a à peu près la moitié de l'effort, c'est aux entreprises de le faire pour débaisser les émissions. Un quart, c'est les pouvoirs publics, l'État bien sûr, les collectivités locales aussi. Et puis le quart restant, le dernier coup d'épaule, j'allais dire, c'est les citoyens, vous et moi à titre individuel.
Vous diriez que vous avez tiré ces conclusions-là après la crise des Gilets jaunes?
Je dirais qu'on a forcément une conscience forte qu'il fallait un peu changer de méthode. Je pense que c'était assez clair. Et ça a permis de nourrir une approche, je pense, très différente, qui est celle qu'on va développer dans l'émission.
Avec le recul, aurait-il fallu proposer d'autres mesures visant notamment les plus fortunés qui polluent le plus?
Alors, ce que l'on montre aussi dans les travaux, je vous l'ai dit, hein, le point important, c'est l'équité et la répartition de l'effort. Et donc, de ce fait, moi, ma conception, c'est qu'il faut que les ménages les plus aisés contribuent beaucoup plus en nature à cette transition. Je m'explique. On voit que, et c'est un point important, en matière de mobilité, en matière de logement, il faut rénover, il faut changer de voiture, et qu'on a besoin que chaque année, il y ait 2-3% de la population qui fasse ce gros changement. Et donc, on attend des ménages les plus aisés qui le fassent en premier le plus. Et donc, ils contribuent à les premiers rénover leur maison, les premiers changer leur mobilité. Et si on arrive à faire ça, alors on a une transition qui est progressive. Donc, je ne me passe pas sur le plan de la taxation, je me passe sur le plan vraiment de l'exemplarité et du fait de faire la transformation les premiers.
Et comment on les incite? Comment on les oblige? Comment on les...
Ben là, il y a plusieurs choses. Il y a des... il y a des mécanismes d'incite, enfin, d'obligation qui existent d'ores et déjà. Et donc, de ce fait, ça fait partie des solutions, des normes.
Vous pensez par exemple au DPE pour interdire, par exemple, de louer des, ben, oui, des logements.
Ça, l'obligation, en fait, là, ça, on n'interdit pas avec le DPE. Attention, ce qu'on dit, c'est que un logement est dit insalubre si jamais c'est une passoire énergétique, et donc du coup, le propriétaire a la responsabilité de rendre le logement salubre. Et donc, de ce fait, une grande partie. Alors, il y a bien sûr des cas particuliers, mais des propriétaires sont des ménages plus aisés. Il y a encore des particularités, parce qu'à certains cas, c'est pas toujours le cas. Mais donc, en général, c'est une mesure qui s'adresse aux ménages les plus aisés et qui ont l'obligation, du coup, de faire ces travaux de rénovation.
Faut-il, vous parliez des entreprises un instant, faut-il flécher les aides de l'État en fonction de critères environnementaux, Antoine Pellion, selon vous ?
Alors, là, il faut être très pragmatique à chaque fois. C'est-à-dire, ce que m'a appris, du coup, notre ancien patron là-dessus, c'est qu'il faut un marteau, un clou. Et à un moment donné, une mesure qui va pouvoir viser plein d'objectifs en même temps, généralement, on se prend les pieds dans le tapis. Donc, de ce fait, il y a une partie des aides qu'on doit conditionner et qui sont conditionnées. Il faut probablement aller un peu plus loin. Et puis, une autre partie aussi, sur lesquelles qui sont plus neutres, mais parce qu'elles poursuivent une autre politique publique. Je prends un exemple très concret, dans les territoires ultramarins. Où il y a un accès à l'énergie qui est plus difficile. Et donc, de ce fait, il y a des aides qui sont à l'accès à l'énergie en général. Si on le conditionnait uniquement à l'énergie verte, tout de suite, maintenant, immédiatement, alors ça conviendrait à baisser brutalement l'accès à l'énergie, à le renchérir très fortement, et ça, c'est pas possible à court terme. Par contre, ça se planifie, il faut donner une perspective.
Le budget 2025 a été amputé de 2,1 milliards d'euros pour les politiques climatiques. Vous aviez réussi à négocier, en tout cas quand vous étiez à ce poste de secrétaire général à la planification écologique, 7 milliards de hausse en 2023. Comment avez-vous reçu cette nouvelle ?
Alors, c'est une question plus large du financement. Je pense qu'il faut juste prendre un petit pas de recul là-dessus. On a un consensus qui s'est créé, qui est très fort, et ça, je pense qu'il faut que ça soit, c'est important de le partager avec les auditeurs, sur les investissements qui doivent être faits pour réussir cette transition. Ces deux personnes, hein, Selma Mahfouz, Jean Pisani-Ferry, qui l'ont mis sur la table, et ça a été confirmé depuis. Aujourd'hui, on investit à peu près 120 milliards par an, public et privé. Donc, c'est les entreprises, les ménages, l'État, les collectivités locales, beaucoup qui investissent ça. Et il faut augmenter de 60, donc plus 50%, l'ampleur de cet investissement-là. Et donc, j'insiste bien, c'est public et privé. C'est-à-dire, c'est pas uniquement l'État qui doit mettre 60 milliards de plus. Donc, effectivement, quand avec Elisabeth Borne, c'était une décision d'Elisabeth Borne qui était très investie sur le sujet de la transition, dit « on met des moyens supplémentaires en 2024 », elle dit « on fait la part de l'État dans ces plus 60 milliards ». Si je fais rapidement le calcul, et vous m'arrêtez si je suis trop long pour nos auditeurs, mais plus 60 milliards, en gros, c'est la moitié publique, la moitié privée, ce que disait le rapport. Et au sein du public, il y avait à peu près un tiers État, deux tiers collectivités, si on se repose sur les compétences. Les collectivités, elles font la mobilité, elles font etc.
Là, pardonnez-moi, je vous interromps un instant, oui. Antoine Pellion. Elles ont perdu, là, dans le budget 2025, 1 milliard d'euros sur le fonds vert.
On va y revenir sur ce point-là. Et donc, de ce fait, rapide calcul, et je suis pas trop long, 60 milliards supplémentaires, la moitié publique, la moitié privée, ça fait 30-30. Et au sein des 30, un tiers État, deux tiers coloc. Et donc, on retrouve l'ordre de grandeur du 10 milliards.
Collectivité
territoriale. Ce qui est la marche, absolument. Et donc, 10 milliards pour l'État, ce qui est la marche qui était attendue du plan. Et donc, sous Elisabeth Borne, on a franchi cette marche de façon importante. Et donc, on a fait le gros du travail sur la contribution de l'État.
Mais quand on voit que ça baisse aujourd'hui de 2 milliards, on se demande, Antoine Pellion, est-ce que ce n'était pas de l'affichage, le poste que vous avez occupé ?
Alors, je pense que là-dessus, alors forcément, sur ma perception, je vais vous dire non, mais ce qui est important, c'est de regarder les résultats. Et ça, je pense que c'est important. Moi, on peut beaucoup débattre des moyens. À la fin, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui marche et où sont les résultats. Et là, c'est important de partager le fait que, après des années de stabilité, de baisse très légère des émissions de gaz à effet de serre, il y a eu depuis le début de 2017 une accélération et on a baissé de 20% nos émissions de gaz à effet de serre entre 2017 et 2024. Et ça a été mesuré par les organismes indépendants, c'est du structurel, le Conseil pour le climat l'a dit, et ça c'est un résultat tangible.
Alors est-ce que c'est suffisant ? Arrêtons-nous là-dessus. Oui. En effet, quand vous étiez là, 2023-2024, moins 4,7% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui est quand même considérable. En 2024, la baisse n'est plus que de 1,8%.
Alors, absolument. Alors, quand j'étais là, c'est un effort très collectif. Je ne voudrais surtout pas qu'on ait l'impression que c'était le résultat uniquement du secrétariat général.
Mais que s'est-il passé pour qu'en deux ans, il y ait un écart aussi considérable sur ce sujet que vous évoquez vous-même.
En fait, il y a deux choses. On a connu quand même quelque chose de très particulier en France dans les 4 dernières années, avec la guerre en Ukraine, l'explosion des prix des énergies. Et vous vous souvenez, l'hiver 2020, sur lequel il y avait une vigilance, et on a demandé à chaque citoyen un effort sur la température de chauffage pour pouvoir passer la pointe d'énergie. Ben ça, ça a eu un effet très concret dans nos comportements, tous, et c'est une bonne nouvelle, qui s'est installée dans le temps. Donc cette sobriété énergétique, on l'a acquise de façon accélérée pendant la crise et on l'a gardée. Et ça, ça a permis d'aller plus vite que prévu dans la baisse. Et donc nous, ce qu'on avait dit dans le plan, c'est qu'il fallait baisser à peu près de 4% à peu près par année. Bah, l'année entre 23 et 24, on a baissé de 6%, donc plus que prévu, parce que justement, on a été très loin pour aller prendre ces gains de sobriété. Et là, maintenant, ce qui reste à faire, c'est des mesures beaucoup plus lourdes de changement de nos infrastructures. C'est rénover nos logements, c'est changer de voiture, c'est décarboner l'industrie aussi. Et donc ça, ça prend aussi plus de temps. Et ça veut dire qu'on a un point d'alerte. Clairement, en 2025, il y a une alerte. On baisse un peu moins vite que prévu et il faut se ressaisir. C'est tout ce plan-là de transition que nous devons construire et déployer, donc à la fois la stratégie et aussi l'exécution, avec les collectivités locales, dans le cadre des COP régionales, et puis aussi avec l'ensemble des citoyens, en rappelant un point important, je pense que, en termes de répartition de l'effort, ce que l'on demande aujourd'hui, c'est que les 3/4 de l'effort des baisses des émissions, ça soit plutôt les gros, les organisations, les pouvoirs publics, les entreprises qui le fassent, et 1/4, ce sont vous et moi, à titre individuel, les citoyens. Et ça, c'est important en termes de répartition juste de l'effort, important pour à réussir cette mobilisation générale et atteindre du coup un monde meilleur finalement, où on vit mieux et où on a de la résilience économique de l'Europe et de la France.
C'est votre voix qu'on entend, Antoine Pellion, dans une vidéo du Conseil d'État où vous détaillez votre stratégie à la tête du SGPE, le Secrétariat Général à la Planification Écologique, le 12 février dernier. Une semaine plus tard, vous démissionnez. Pourquoi ?
Alors, ce n'était pas une surprise générale et quelque part, c'était prévu. Mais je donne un peu de raison et pourquoi est-ce que, effectivement, je change de fonction aujourd'hui. Enfin, j'ai changé de fonction et j'ai rejoint le groupe IDEX qui est investi dans la décarbonation des collectivités et des entreprises. Il y a plusieurs choses. Un, je pense qu'on n'est jamais dépositaire de son poste et c'est important, notamment dans les structures publiques aussi, d'avoir des évolutions régulières. Moi, ça faisait, vous l'avez souligné à l'introduction, quasiment 10 ans que j'étais très investi dans les pouvoirs publics et c'était important, du coup, aussi de diversifier les expériences. Je pense que c'est aussi important parce que le SGPE, il a été créé pour durer le temps qu'on atteigne nos objectifs de transition écologique. Et je pense c'est important de dissocier la fonction du poste et donc aussi pour créer de la pérennité sur la structure, c'est bien qu'il y ait du renouvellement. Et donc du coup que ça soit la structure et pas Antoine Pellion qui soit pérennisé, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Après, il y a une question de savoir aussi où maintenant où est-ce qu'il faut mettre l'effort pour pouvoir accélérer et réussir. Et ça renvoie vers ce qu'est la planification et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce que la planification ? C'est non seulement dire aujourd'hui, dans les 5 ans, 2030 et suivant, ce qu'il faut faire dans chaque secteur, avec chaque acteur. Mais c'est aussi s'assurer que, du coup, bah, ces plans d'action, ils se concrétisent. Maintenant qu'on a posé les fondamentaux et qu'on a eu des résultats, c'est aussi ce que je vous disais en termes de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, moi, mon engagement personnel, il va sur l'action concrète pour obtenir à y arriver, entre guillemets. Et donc, il faut continuer d'agir auprès de l'État, mais il faut agir aussi auprès des entreprises, auprès des collectivités locales. Vous avez évoqué dans l'extrait que vous avez bien voulu passer là, le fait que les collectivités locales avaient un rôle essentiel. Ben voilà, je suis passé de la catégorie de ceux qui planifient, entre guillemets, à la catégorie de ceux qui font dans le quotidien les projets et qui s'impliquent sur le terrain.
Voilà. Avez-vous vu une différence d'intérêt pour les enjeux écologistes entre Elisabeth Borne, Gabriel Attal, puis Michel Barnier ?
Chacun, oui, il y a des différences d'intérêts, parce que chacun a son histoire aussi, a ses pratiques. Elisabeth Borne, elle a été, c'est elle qui a lancé le secrétaire. Alors, replacer les choses, hein, c'est Emmanuel Macron qui, du coup, en 2022, dans le discours de Marseille dans l'entre-deux tours, prend cet engagement, non pas de créer un secrétariat général qui peut être considéré comme un machin, mais de donner au Premier ministre, et avec un X au pluriel, la fonction de planification écologique pour coordination de tous les gouvernements. Donc Elisabeth Borne l'incarne, elle a été elle-même, parmi d'autres choses, ancienne ministre de la transition écologique, et donc elle connaît parfaitement techniquement les sujets au fond. Et ça, elle le fait en s'y engageant énormément. Et donc il y a un certain nombre de décisions qui sont prises, vous avez évoqué notamment le sujet du financement qui est l'une d'entre elles. Gabriel Attal a continué aussi, du coup, cet élan-là. Il est arrivé sur une durée qui était plus courte, mais il y a un moment, par ailleurs, qui était un moment de crise agricole. Et en fait, Michel Barnier, lui, a été par le passé ministre aussi de l'environnement avec la loi. Donc chacun a sa vision des choses, voilà.
Qu'avez-vous vu ou appris du pouvoir à ce poste-là pendant 3 ans?
Je pense qu'il y a quelque chose d'important, et que c'est qu'en fait, tous ces sujets de transition, ils concernent de façon assez intime chaque Français dans son comportement, dans son quotidien, etc. Et beaucoup de choses ne se décrètent pas. Donc en fait, j'ai appris à la fois la puissance de ce que c'est une loi ou un règlement, mais aussi sa limite et le fait qu'il faut susciter de l'engagement. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important dans la période politique que l'on vit aussi. On voit que depuis la dissolution, le fait majoritaire du coup a disparu. Et donc de ce fait, plus que jamais, il faut savoir construire du consensus, de l'engagement, de l'adhésion. Et en réalité, et ça c'est quelque chose d'assez français, on attend toujours du niveau du dessus qui nous résolve nos problèmes. Et je pense que le grand enseignement quand même de toutes ces années, c'est que le pouvoir d'initiative, il est très local. Et donc le pouvoir, notamment le pouvoir au côté État, mais aussi des collectivités, etc., c'est de donner les moyens d'eux et pas de décréter ce qui doit être fait.
Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, a annoncé la semaine dernière vouloir réduire un tiers des agences de l'État. Est-ce une bonne idée, selon vous ?
Alors, je ne me prononce pas sur le nombre, etc. Je pense qu'il y a, derrière ça, il y a plusieurs choses. Il y a un, on a besoin de maîtriser la dépense publique. Pour une raison, d'ailleurs, qui touche aussi la transition écologique, c'est que si jamais il devient plus cher pour la France de s'endetter, ça va du coup, toute l'économie ça va coûter plus cher à toute l'économie de se financer. Or, la transition, c'est beaucoup d'investissements et donc tout va devenir beaucoup plus cher, on n'arrivera plus du tout à le financer. Donc, il faut tenir ces dépenses publiques-là. Ensuite, il y a toujours des rationalisations à faire. Par contre, moi, je suis très contre, et ça n'a pas été dit par Amélie Montchalin, hein, mais on a entendu parler des suppressions de l'ADEME ou de l'OFB, etc. Je pense que tous
Office
ces agences-là...
Office français de la biodiversité, même l'agence bio aussi, hein, qui semble être dans le viseur...
Donc, qu'il y ait des regroupements, qu'il y ait des synergies, qu'il y ait des améliorations, etc. Je pense que ça peut faire sens, ça se regarde au cas par cas. Par contre, il faut faire attention de ne pas supprimer les fonctions essentielles, mais ça n'est pas ce que la ministre, en tout cas, ce n'est pas ce que j'ai entendu dans la bouche de la ministre.
Donc pour vous, l'ADEME, l'Agence Bio et l'Office français de la biodiversité, on les conserve?
En tout cas, oui, ce sera, si jamais on m'interrogeait, c'est ce que je dirais.
Ben c'est le cas aujourd'hui et en direct. Merci Antoine Pellion d'être avec nous sur France Culture. Pour la première fois, la surface agricole cultivée en bio a diminué en France en 2023, reculant de 54 000 hectares selon la fameuse Agence Bio. Est-ce que c'est pour ça, à votre avis, qu'elle est dans le viseur des sénateurs? Parce qu'elle annonce les mauvaises nouvelles?
Non, je pense que c'est... ça traduit un sujet qu'on a de façon un peu transversale dans tous nos sujets de transition. C'est qu'on tombe très vite dans le côté bouc émissaire ou la caricature. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est en train d'observer dans un peu cette sensation de backlash qu'on observe, on pourra y revenir, au niveau national et international sur l'écologie. C'est dans un moment un peu de perte de repère, on cherche un bouc émissaire et l'écologie, ça a une bonne tête de bouc émissaire parce qu'il suffit de changer un tout petit peu la réalité et puis on en appelle au bon sens pour dire que vraiment c'est inadmissible. L'exemple type, c'est ils vont vous interdire de rouler avec votre voiture ou ils vont vous interdire de manger de la viande ou ils vont vous obliger à tous manger bio. Et donc ça, bien sûr, c'est pas du tout ce qui est prévu. Et donc ça, c'est un mensonge qui vise à être démago. Et donc là, l'agence bio, je pense qu'elle pâtit de cela aussi, très clairement.
Mais pourquoi le bio a reculé en France? Est-ce qu'il n'a pas été assez aidé? Moi, la question que je me pose souvent, c'est comment se fait-il qu'il est plus cher de consommer local et bio plutôt que des fruits et des légumes qui arrivent du bout du monde?
Alors, je pense qu'il y a... Le recul du bio, il s'analyse en fait très simplement, et ça a été dit, c'est qu'au moment de la crise, de la guerre en Ukraine et de l'explosion du prix de l'énergie, toutes les dépenses contraintes des Français, à commencer par l'énergie, ont explosé. Et donc, il y a eu une pression très forte sur l'argent qu'on mettait tous les mois pour acheter de l'alimentation. Et effectivement, vu que le bio est un peu plus cher aujourd'hui en France, ça s'est fait pour partie au détriment du bio. Et s'il y a plus de consommation, moins de consommation de bio, c'est pour ça que les surfaces ont été ajustées.
Mais est-ce que l'État peut quelque chose face à ça, face à ce constat que c'est plus cher?
Alors, je pense qu'il faut qu'on trouve... l'État d'ailleurs, d'ores et déjà, continue à financer la conversion bio. Par contre, ne finance plus, et c'est les régions, du coup, qui ont repris cette compétence-là, le maintien de l'agriculture biologique. Ça renvoie quand même à un point que je disais tout à l'heure, qui est de dire, c'est toujours facile d'aller renvoyer le niveau de dessus en se disant, vous n'avez pas fait le nécessaire, et c'est pour ça que ça ne se passe pas. À chaque fois, c'est quelque chose... C'est une équipée collective, et donc là, sur le bio... Il y a notamment les régions qui ont un rôle important. Et puis, il faut que nous, consommateurs, on se pose aussi les bonnes questions. Ça renvoie à ça aussi.
Et tout le monde n'a pas les moyens.
Non, mais encore une fois, on ne demande pas que tout le monde mange bio, et ça, je pense que c'est très important. Et donc, il y a deux choses. Il faut que le bio devienne... plus on l'étendra, il y aura aussi une taille critique dans laquelle on pourra avoir des prix aussi qui seront moins chers. Et après, on n'a jamais demandé à tous les Français de manger bio, et donc il y a cette proportionnalité en toute chose qui est importante.
C'est pas un objectif à suivre, vous.
L'objectif qu'on a fixé, non, mais en fait, c'est ça qui est important aussi. L'écologie, généralement, il faut bien distinguer aller dans la bonne direction et le faire avec suffisamment d'intensité pour arriver à l'objectif qu'on s'est collectivement fixé. Jusqu'à présent, l'écologie, elle pâtit d'une démarche de ceux qui disent on va dans le bon sens, donc laissez-nous tranquille, ça suffit, et de ceux qui disent on va jamais assez loin pour y arriver. Ce qu'on a essayé avec la planification, c'est d'essayer de poser quelle est la métrique, quel est le bon niveau d'effort qu'il faut chaque année pour y arriver. Et donc typiquement, le bio, on a fixé un objectif de 20%. C'est beaucoup plus qu'aujourd'hui, mais c'est pas non plus 100% de l'alimentation en bio. La voiture, c'est 15% en 2030. 85% des Français continueront à rouler avec leur voiture thermique en 2030, et ça n'empêchera pas la France d'atteindre ses objectifs climatiques. Et ça, il faut en avoir conscience de ce chemin.
Est-ce qu'il faut taxer le kérosène ?
Il est très taxé aujourd'hui. Alors le kérosène, pardon. Je pensais du coup au diesel et au carburant de voiture. Là, vous parliez de l'aérien, le sujet de l'aérien. L'aérien, en fait, il y a plusieurs choses. Un, je pense que c'est important de se dire que aujourd'hui, la part de l'aérien dans toutes les émissions, elle est relativement faible. Pour autant, est-ce qu'il faut ne rien faire ? Absolument pas. C'est moins de 1% des émissions du secteur des transports.
Ça dépend comment on compte.
Alors, même en incluant...
En empreinte carbone.
Même en incluant le transport international. Par contre,
donc l'avion, on n'y touche pas.
Non, pardon, c'est pas ce que je dis. Donc du coup, mais clairement, il faut agir aussi dessus, et aussi agir en fonction de l'équité, parce que quelqu'un qui prend l'avion tout le temps parce qu'il a les moyens de prendre l'avion et qui du coup serait moins contributeur de l'effort que quelqu'un de modeste qui roule en voiture, etc., c'est insupportable pour l'ensemble des Français, et à juste titre. Donc il faut aussi qu'il y ait une contribution de l'avion. Alors, ce que ça a pris comme forme, quand moi j'étais secrétaire général de la planification écologique, c'est pas une taxation directe, ça a été une taxation via les aéroports notamment, et aussi via ce qu'on a appelé les systèmes d'échange de gaz de quotas d'effet de serre, notamment au niveau européen, et par le fait qu'on oblige les compagnies aériennes à incorporer des biocarburants dans les carburants d'aviation. Et ça, c'est l'équivalent d'une fiscalité.
Mais est-ce qu'il faut, selon vous, Antoine Pélion, qui avait été 3 ans secrétaire général à la planification écologique, réduire nos voyages en avion ?
Je pense qu'il faut... Pardon. Il y a du coup une discussion, je vais vous répondre à votre question précisément. Pour l'instant, ce qu'on a regardé, c'est est-ce qu'il était possible de transformer le secteur aérien pour pouvoir maintenir des avions, mais qu'ils arrêtent de polluer et d'émettre des gaz à effet de serre. Et ça, c'est tout le sujet notamment des carburants de synthèse, des biocarburants. Et donc, si jamais on y arrive à les développer suffisamment, on pourra continuer de prendre l'avion pour se déplacer. Si on n'y arrive pas, il va falloir drastiquement changer notre approche à l'avion. Et aujourd'hui, on a des doutes, et je ne suis pas capable, en toute honnêteté, de vous dire quel sera l'embranchement.
France Culture, Sens Politique, Astrid de Villene.
J'avais pris l'engagement que vos propositions seraient transmises sans filtre. J'ai cru comprendre qu'on était beaucoup revenu sur ce sujet ces derniers temps, à juste titre. Ça veut dire très simplement... N'oubliez aucune des propositions faites, bien en mesurer l'impact, les soumettre ensuite au vote, et j'irai au bout de ce contrat moral. Et dans la discussion d'ailleurs que nous avions eue en janvier, les réponses que j'avais faites aux questions, je l'avais dit, ce sans-filtre ne peut être ni une substitution au rôle qui est légitime et celui du gouvernement par notre Constitution, ou celui du législateur, qui est une assemblée de citoyens qui a mandat de représenter le peuple. Et j'ai parfois eu le sentiment que dans le débat public ou les commentaires, il pouvait y avoir le sentiment que l'idée de discuter des propositions, d'y travailler, d'être dans un débat qui est sur la faisabilité, la nature, la manière de l'écrire, était une remise en cause du sans-filtre. Je veux plaider le contraire. Écarter une proposition totalement, sans qu'il y ait cet échange, sans que ce soit transparent, ce que je vous ai dit, je me souviens très bien en janvier, c'est rien ne se fera derrière le rideau. Il y a les mesures sur lesquelles j'ai exercé mon joker en juin dernier. Toutes les autres sont dans ce processus, qui est un processus du sans-filtre, qui ne veut pas dire qu'elles seront telles quelles à la fin en application, parce que je ne peux même institutionnellement contraindre ce pouvoir d'amendement, le rôle tout à fait légitime des deux chambres qui sont devant nous.
Emmanuel Macron, le 14 décembre 2020, devant la Convention citoyenne pour le climat, 6 mois après la fin de ses travaux. Et j'aimerais avec vous, Antoine Pélion, puisque vous avez la gentillesse d'être là en direct ce samedi, qu'on fasse un peu le bilan de cette convention citoyenne. Puisqu'avec le recul, si on reprend les jokers d'Emmanuel Macron, il y avait la limitation de la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h, il l'a écarté. Il a écarté également la taxe de 4% sur les dividendes, notamment pour financer la transition. En revanche, ce qu'il a gardé et qui fait aujourd'hui polémique, ce sont ces petites lettres dont on entend parler souvent dans l'actualité, le ZFE ou le ZAN.
Absolument. Alors, il y a plusieurs choses, cette convention citoyenne. Je pense que j'étais auprès d'Emmanuel Macron quand on a lancé cette convention citoyenne, du coup, au tout début. Je pense qu'elle a montré que pour chaque Français plongé dans ces sujets de transition écologique, en y prenant le temps aussi de comprendre ce qu'elles étaient les incidences, quels étaient les sous-jacents, etc., on en arrive tous à un plan d'action qui, finalement, touche à peu près les mêmes sujets. On arrive à créer du consensus. Et ça, c'est un point quand même qui me rend optimiste sur le fait qu'on puisse faire ces transitions sur le terrain. Ensuite, après, ça amène à la question de quelles sont les modalités de décision et quel est le niveau d'action aussi qui est pertinent. Moi, avec le recul, je pense que cette convention citoyenne, elle est à la fois... Et je pense que la question du ZFE, donc des zones à faible émission, et du ZAN sur l'artificialisation le montre. Parce qu'à chaque fois, c'est des sujets qu'on a pris, à l'issue d'ailleurs de la convention citoyenne, comme des sujets nationaux qu'on a traités au niveau national par des grandes lois, alors que c'est des sujets d'enjeux très locaux. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse évoluer cette méthode. Et d'ailleurs, c'est ce qui a commencé à être fait au cours des dernières années, qui est donner une grande place à l'action locale et à l'élaboration de plans locaux. Mais attention, ça ne veut pas dire que chacun agit dans son coin tout seul et donc du coup, et où il y a besoin en fait beaucoup de rigueur, beaucoup de traçabilité, de quantification, de suivi des plans d'action et il y a besoin aussi d'échanges entre les échelons territoriaux. Je prends un exemple concret sur la question, par exemple, de la question des énergies renouvelables. Bah, on voit qu'une zone très urbaine, elle n'a pas forcément le foncier pour pouvoir produire ces énergies renouvelables. Une zone plus rurale l'aura. Et donc, du coup, il y a des transferts qui doivent être faits. Par contre, à l'inverse, une zone très urbaine, elle doit faire plus d'efforts que la zone rurale sur rénover les maisons, puisqu'il y en a plus, il y a plus de gens, etc.
Mais justement, ça touche à un point fondamental. Et j'aimerais savoir si vous avez trouvé la solution quand vous étiez dans les coulisses, dans les arcanes du pouvoir, Antoine Pélion. Est-ce que... On prend des mesures, on fait voter des textes et ensuite on les détricote. C'est un peu la sensation qu'on a, nous, comme ça, en tant qu'observateurs. Vous voyez, par exemple, sur les ZFE, l'Assemblée est en train d'étudier en simplification un changement. Les ZFE, je rappelle, les zones à faible émission qui empêchent certains véhicules d'aller dans les centres-villes. Sur les ZAN, pareil, zone d'artificialisation nette, à horizon 2025, on est en train de reculer, de faire des changements qui sont encore de nouvelles normes et qui sont très compliquées pour les maires ou les collectivités territoriales qui s'en servent. Est-ce que j'ai presque envie de vous poser la question, c'est la même chose sur le glyphosate, sur les néonicotinoïdes, on interdit, puis en fait on n'interdit plus. Pourquoi on n'arrive pas à planifier, à voir sur le long terme?
Alors, ces exemples sont intéressants, ce que vous dites. Je vais en reprendre quelques-uns pour juste les disséquer un tout petit peu. Sur la question des zones à faible émission, c'est des vieux dispositifs qui ont été enclenchés, notamment à l'époque, c'était une époque où il y avait, au niveau de chacune des métropoles, encore relativement peu de politiques publiques sur comment est-ce que je fais une place différente à la voiture et au transport en commun, sur aussi, il y avait besoin de déclencher ce qui était... C'était avant les règles européennes sur les voitures électriques, etc. Et donc, il y avait besoin, par le terrain, de changer de logique. Et donc, on voit que cette impulsion-là, en réalité, elle a été donnée aujourd'hui. On ne peut pas le voir à la radio, mais regardez sur Internet, sur le site du SGPE, c'est d'ailleurs aussi, les cartes de l'Île-de-France sur l'évolution de la pollution atmosphérique. Les résultats, en quelques années, ils sont extrêmement frappants.
À Lyon aussi.
À Lyon, c'est pareil aussi. Et donc, ces politiques-là, elles ont, par l'impulsion qu'elles ont donnée, enclenché plein d'autres choses. Encore une fois, ça traduit le fait que cette transition sur chaque sujet, ce n'est pas juste une mesure qui le fait, c'est un collectif, en l'occurrence, avec les patrons de métropole, avec aussi les entreprises de transport, etc., qui s'enclenchent. Et donc, à la fin, en termes de pollution atmosphérique, c'est plutôt un succès. Alors, ce n'est pas fini, il faut continuer, mais c'est plutôt un succès. L'artificialisation, ce n'est pas toujours la même chose. Pour le coup, la France est un des pays qui artificialise beaucoup. Quand on regarde nos voisins, en Espagne, en Allemagne, etc., ils artificialisent beaucoup moins que nous et pourtant ils continuent. L'Allemagne se développe, il n'y a pas de sujet de développement. Et c'est un sujet d'autant plus préoccupant que c'est un sujet de souveraineté aussi. Parce que derrière, l'artificialisation, ça vient manger les terres agricoles. Terres agricoles sur lesquelles on a besoin de maintenir des surfaces, d'ailleurs pour l'agriculture ou pour la forêt aussi, parce que le sujet, on y reviendra, de la biomasse, c'est un sujet essentiel. Et là, pour le coup, on voit qu'on a encore beaucoup à faire et là encore, ça se voit, ça se décrète peu au niveau national. Ça se traite au niveau local et ça renvoie à les difficultés qu'on a eues sur la bonne articulation entre les différents niveaux de collectivité.
Et cette question de Mathieu sur Instagram, qui est sans doute un peu plus directe que la mienne, que pensez-vous sincèrement des ZAN, des zones d'artificialisation nette, de la zéro artificialisation nette? Artificialisation, pour que tout le monde comprenne bien, c'est construire. Hein.
Oui, mais je pense que c'est indispensable de continuer cette politique-là. Alors, je redis bien les choses. ZAN, zéro artificialisation, ça donne l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Alors, c'est artificialisation nette, ça veut dire que tout ce qu'on artificialise, on doit le compenser par ailleurs en améliorant des espaces naturels. Et l'objectif de zéro, il est en 2050, donc du coup dans beaucoup d'années. Et à court terme, 2030, l'objectif avant le changement de la loi et les discussions actuelles, c'était de diviser par deux l'artificialisation. Et on a regardé, et donc là, en volume national, c'est possible et ça ne pose pas de problème ni de développement de logements quand c'est nécessaire, ni de développement de zones industrielles. Toute la question, c'est comment on répartit géographiquement ces poches pour qu'on puisse faire ce développement. Et c'est là où la mécanique se grippe, c'est que comment on attribue en disant c'est à la métropole de Tours, de Dunkerque, de Lyon, etc., ou sur un territoire rural, de pouvoir artificialiser ces mécanismes de répartition et d'allocation, c'est eux qui suscitent les grosses oppositions. Et c'est ça qu'il faut arriver à travailler. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé la bonne formule. Quand on le prend par le haut en disant « voilà les règles de répartition », il y a une contestation. Et quand on reprend par le bas en se disant bah « alors, quelles sont les règles ?» Bah, l'effort est insuffisant pour atteindre l'objectif national.
Et ça, au SGPE, vous n'avez pas trouvé
Non, on n'a pas trouvé...
recette miracle.
En fait, elle y est pour moi dans la discussion qu'on a entre les échanges géographiques. C'est la méthode qu'on a eue dans les COP régionales. Si je peux prendre 30 secondes pour l'expliquer. Du coup, le SGPE, avec Christophe Béchu à l'époque et avec l'ensemble aussi des préfets et des présidents de région, on s'est dit que ce plan d'action nationale, il fallait qu'on ait sa représentation au niveau local. Donc on a pris la région à l'échelle géographique, donc non seulement la conseil régional, mais l'ensemble de cette collectivité. On s'est dit, ça veut dire quoi concrètement à la maille d'une région, à la maille d'un département? Et on est rentré très concrètement dans les plans d'action. Et là, bien sûr, on arrive avec une première version, en leur disant, vous pouvez tout changer au niveau local. Par contre, quand vous faites plus quelque part, enfin moins quelque part, par exemple moins d'artificialisation, il faut faire par ailleurs plus d'autres choses pour pouvoir compenser les effets. Et cette discussion-là, cet échange, ce dialogue, je pense que c'est la bonne façon de s'en sortir.
Peut-être un mot sur votre successeur, puisque vous avez quitté ce poste en février dernier, Antoine Pélion. Donc, il y a 4 candidats en lice pour vous succéder au secrétariat général à la planification écologique. Augustin Augier, Nathalie Layani, Brice Huet et Olivier David. Rien que dans les intitulés de leur poste actuel, c'est Politico Pro qui a sorti cette information, on se demande s'il y a vraiment besoin en plus d'un secrétaire général à la planification écologique, puisqu'il y en a une qui est directrice du développement durable à la Caisse des dépôts, un autre qui est commissaire général au développement durable, un autre qui est chef du service climat au ministère de l'écologie.
Alors, ça renvoie, je pense que c'est utile de redire à nos auditeurs à quoi ça sert concrètement un secrétaire général à la planification écologique ? Parce que quand on lisse les sigles comme ça, on peut avoir l'impression que tout ça, c'est des machins et que c'est redondant. On s'est donné, 3 missions simples. La première, c'est de mettre de la cohérence dans l'action collective sur ces sujets de transition. Parce qu'on voit que, un exemple important, facile à comprendre, en matière d'énergie renouvelable, il peut y avoir des contradictions entre l'énergie renouvelable et la biodiversité, par exemple. Ou il peut y avoir des contradictions entre le pouvoir d'achat et la rénovation énergétique. Donc à chaque fois, il faut mettre en cohérence ces politiques publiques et il y a besoin d'une forme d'instance de coordination placée auprès du Premier ministre. Et puis, deuxièmement, il y a aussi besoin après s'assurer que... on dise bien le qui fait quoi et que chacun ensuite puisse décliner concrètement sur le terrain et le suivre les résultats opérationnels. Et ça, c'est une deuxième mission importante. Ça a pris pour les collectivités le rôle des COP. Et donc, on voit que le SGPE, c'est très peu de personnes. On est une grosse vingtaine au niveau national qui, du coup, font ce travail de cohérence, de suivi et de dire le qui fait quoi. Avec à chaque fois, encore une fois, à la fin, l'État joue une petite partie du rôle opérationnel. Les entreprises jouent un rôle très important. On a peu parlé encore pour l'instant. Et encore une fois, les collectivités locales aussi.
Êtes-vous éco-anxieux, Antoine Pélion ?
Alors, je suis préoccupé. L'anxiété, c'est quand à la fin, on n'agit plus parce que finalement, on est totalement saisi par l'immensité de ce qui nous arrive et des changements. Donc moi, je suis extrêmement conscient des changements très profonds qui vont nous toucher au quotidien. Par contre, je ne suis pas... Je ne suis pas empêché d'agir. Et donc, justement, je pense que mon fil rouge, que ça soit à la fois dans le privé, chez IDEX, où on est là pour aller décarboner, mettre des réseaux de chaleur, décarboner aussi l'énergie dans les entreprises ou au gouvernement, ça a été de trouver le passage de la voie d'action pour y arriver à mobiliser.
Vous avez l'impression que c'est plus facile d'agir dans le privé qu'au service de l'État ?
On agit différemment. Et donc, de ce fait, je pense que c'est bien de faire les deux et d'avoir d'ailleurs les cultures mixtes de façon à pouvoir du coup faire les bons choix en se mettant aussi à la place des uns et des autres.
Et est-ce qu'il faut accélérer ?
Ah oui, définitivement, oui.
Sens politique, l'archive de l'invité.
Un jour la pluie viendra.
J'aime beaucoup que les invités le choix des archives dans cette émission, mais j'avoue que Dalida, on ne l'avait jamais en fait encore, et Antoine Pélion, Le jour où la pluie viendra en 1964, interprété à l'origine par Gilbert Bécaud avec les paroles de Pierre Delanoë.
Alors oui, en fait ça renvoie à plusieurs choses. Je pense qu'il y a une question de forme, et je pense que c'est important de surprendre et d'interpeller, et je trouve que là du coup Dalida le fait. De forme aussi, parce que c'est la culture populaire, et je pense qu'on est sur un sujet qui nous concerne tous. Personne ne peut se planquer dans ce sujet de la transition. Et donc, ça symbolise ça. Et sur le fond des paroles, je vous inviterai les auditeurs à la réécouter, ça touche à un problème assez fondamental qui est celui de l'eau. Et je voulais l'évoquer aujourd'hui, parce qu'une des grandes découvertes que moi j'ai faites en tant que secrétaire général de la planification écologique, c'est le choc extrêmement fort du changement climatique, notamment sur la ressource en eau. Je vous donne un chiffre. Puisque la température potentiellement pourrait augmenter de 3 ou 4 degrés, on perdrait dans ce cas-là quasiment le quart de l'ensemble de notre ressource de l'eau utile sur le territoire. C'est plus que l'intégralité de ce qu'on consomme aujourd'hui pour les usages humains. Et donc, on aura beau faire des plans de sobriété, etc., le statu quo, il n'est pas possible. Et ça, ça change notre climat, ça change notre aménagement, ça change notre façon de vivre le territoire. Et donc, ça se prépare de façon absolument indispensable. Et ça, je pense qu'il faut qu'on en ait conscience.
Et ça, est-ce que vous avez pu, au poste qui était le vôtre, au secrétariat général à la planification écologique, préparer la France sur la question de la sécheresse et de l'eau ? Je rappelle ce sondage de la Tribune Dimanche publié en mars dernier. 48% des Français s'inquiètent des sécheresses, 54% de la dégradation de la qualité de l'eau. Et on a tous vu, au moment des sécheresses ces dernières années, l'eau qui manque dans certains robinets. Hein. 40 000 Français ont été privés d'eau déjà un été.
Donc, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites. Je pense qu'on est par contre qu'au début de l'histoire et qu'il va falloir continuer à agir concrètement à tous les niveaux. Tant sur la quantité, vous l'avez dit, c'est la question beaucoup de la sécheresse, mais aussi des inondations l'hiver, à l'inverse, hein, que sur la question de la qualité. Et là, on voit qu'on y est très sensible au titre de notre santé, parce que s'il y a moins d'eau sur Terre, même s'il n'y a pas plus de polluants, ils sont plus concentrés et ils peuvent avoir des effets plus importants sur la santé. Donc aujourd'hui, il y a des actions qui sont menées, mais on est au début de cette transformation. Il va clairement falloir accéder à ce point. Et plus généralement, parce que là, on parle de l'eau, mais cette question des ressources naturelles, je pense par exemple aux matériaux, aux minerais, à la biomasse, c'est le bois ou alors les productions agricoles, elle va être absolument centrale dans notre avenir demain. Et c'est doublement important. C'est important parce qu'on dit souvent, on parle souvent de limites planétaires et ça nous paraît un peu abstrait comme notion. Et on se dit concrètement, oulala, ce truc-là nous arrivera un jour, mais on ne le touche pas du doigt. Ben là, on est en train de toucher du doigt ce que concrètement ça fait. Et je pense que pour la mobilisation de tout le monde, c'est important. Et puis deuxièmement, en fait, les ressources, elles ne sont pas équitablement réparties sur tout le territoire, sur le monde entier. Et donc, ce sujet de la géopolitique, et on est en train de le vivre avec Trump, avec Xi Jinping en Chine, etc. Cet accès aux ressources, c'est la nouvelle guerre économique qui s'esquisse dans les prochaines années. Et là, c'est important parce que du coup, cette transition réussie, écologique réussie, c'est synonyme de souveraineté. Et dans le moment que l'on est en train de vivre, Ben, ça veut dire que la transition écologique devrait être une priorité politique.
Et ça ne l'est plus.
Ben, c'est-à-dire, ça l'est de façon intermittente. Et donc, de ce fait, il faut que ça soit... C'est vraiment au cœur de notre politique économique, à mon sens, parce que c'est la seule façon d'être résilient au choc à venir.
Sur le plan eau qui avait été dévoilé en 2023 par Emmanuel Macron, le journal Le Quotidien Les Échos en a fait un bilan en 2024. Les fuites, les fameuses fuites dont on a beaucoup parlé, ces points noirs, ont été pour beaucoup réparées, 93 sur 171, avec des millions d'euros accordés. En revanche, sur la pollution de l'eau, les grandes promesses sont mises sur pause.
Alors, il y a des choses qui ont été faites aussi sur la pollution de l'eau. Par contre, on est encore au milieu du guet, notamment, je pense que vous avez en tête la question des pesticides, qui est une partie aussi. Donc, il y a eu en France, depuis 2017, une baisse. Alors que, je refais un tout petit step back, parce que c'est important de voir, depuis le Grenelle de l'environnement, on a toujours dit que les pesticides, c'était une priorité politique absolue. Quand on regarde les résultats, les pesticides ont continué à augmenter sous les quinquennats précédents, avec François Hollande continuait, etc. Il y a eu, avec Emmanuel Macron, une baisse de quasiment 20% de la consommation de pesticides depuis 2017.
Enfin, il y a quand même eu le glyphosate qui a été oublié.
Oui, alors il a baissé dans sa consommation.
Mais il avait promis de le supprimer.
Il avait promis de le supprimer, donc du coup, c'est toujours la différence. Mais donc, quand je regarde les choses factuelles, il y a eu une baisse. Est-ce que c'est suffisant? Pas encore. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Oui. Est-ce qu'il faut accélérer? Absolument.
Est-ce que l'eau est un sujet régalien, comme le dit la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher?
C'est aussi un sujet des collectivités locales, en plus d'être un sujet régalien, donc c'est pas que l'apanage de l'État, du coup, de traiter la question de l'eau.
Merci Antoine Pélion d'être venu livrer ce témoignage dans Sens Politique. Vous avez été pendant 3 ans secrétaire général à la planification écologique. Qui sera votre successeur ?
L'avenir le dira.
À très bientôt en tout cas. Merci d'être venu. On suivra ce dossier. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Merci à Léa Varin qui m'a aidé comme chaque semaine à préparer cette émission. À la réalisation, Luc-Jean Reynaud. À la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. Et à la vidéo, Jordan Fuentes. À samedi prochain.
Vous écoutez France Culture.
L'histoire de la régie Renault commence à Boulogne-Billancourt tout simplement parce que la famille Renault y possède une maison.
C'est une entreprise, mais c'est aussi un symbole.
Mathieu Garrigou-Lagrange.
La régie Renault a représenté davantage que les véhicules qui sortaient de ses usines.
Le domaine de la propulsion terrestre vient de s'annexer la Dauphine.
Quant à son fondateur Louis Renault, il a été le héros de la Grande Guerre, mais le paria de la Seconde. Toute une saga que nous allons vous raconter ce dimanche dans Salle des Archives.
Salle des Archives, chaque dimanche à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Dans cette nouvelle série des Pieds sur Terre, Adila Benedjaizou donne la parole à des autrices et des auteurs de journaux intimes. Un journal où l'on traverse le temps avec celle ou celui qui écrit. Entre portraits, confessions et parfois récits historiques.
Je cherchais quelqu'un qui me comprenne en fait, qui puisse me comprendre. C'était comme des bouteilles à la mer un petit peu.
Les Pieds sur Terre, le journal de ma vie. Une collection à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
La semaine prochaine, je reçois la ministre de la Ville, Juliette Méadel. Envoyez-lui vos questions à cette adresse, senspolitique@radiofrance.com. Et à 13h30 sur France Culture, comme tous les samedis, vous avez rendez-vous avec le premier épisode de l'histoire particulière du week-end.
On se trouve à l'église Saint-Médard, dans le quartier Saint-Marceau. L'église Saint-Médard, à l'époque de l'abbé de Choisy, venait d'être rénovée. Complètement, parce que pendant la fronde, elle avait été complètement démolie, enfin saccagée. On est dans cette belle église où l'abbé de Choisy est venu s'installer et dans laquelle il faisait la quête. Il avait décidé à cette époque de venir dans ce quartier qui était un quartier bourgeois, s'installer et reprendre l'habit de femme.
L'abbé de Choisy, vis et légende travestie. Un documentaire de Camille Desombes, réalisé par Gilles Blanchard. Premier épisode, l'abbé flamboyant.
Quand il venait à Saint-Médard, il mettait un vêtement noir, boutonné jusqu'en haut, et dessous une belle robe blanche et une longue queue. Et pour se faire accepter, habillé en femme, il a commencé par déboutonner 3-4 boutons du haut, puis 3-4 boutons du bas, parce que cet habit noir pouvait passer pour une soutane en réalité.
Fernande Gontier, biographe.
Et puis, petit à petit, voyant qu'il était accepté par le curé de Saint-Médard, qui était ravi d'avoir un aristocrate dans sa paroisse, il a commencé à se vêtir de vêtements beaucoup plus... Où il mettait une robe blanche et des dessous noirs, ou des dessous noirs, une robe noire et un dessous blanc. Il a commencé à remettre ses boucles d'oreilles, ses boucles qu'il avait héritées de sa mère. Alors il remettait ses diamants, ce qui fait qu'il a petit à petit été adopté comme femme en réalité.